Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Et la question est posée chaque semaine, est-ce que l'équipe de Cinérama a vu un bon film ? Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors la semaine dernière, il était question de l'Odyssée du commandant Cousteau et on retourne bien cette semaine sur la mer. Mais cette fois-ci, dans l'ambiance plutôt ouvrière.
Oui, pétrolière, on va dire, ouais. Avec Deepwater de Peter Berg. Alors, je vous parlerai aussi du nouveau film des frères Dardenne, La fille inconnue. Et enfin, un documentaire de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français.
Et puis, eh bien, nous aurons l'occasion d'écouter Nicole Garcia, la réalisatrice et actrice pour Mal de Pierre, film qui sort le 19 octobre avec Marion Cotillard, qui était en compétition à Cannes, qui n'a rien remporté. Nous écouterons, alors je vous parlerai aussi de Jack Reacher, ça c'est le dernier film produit par Tom Cruise et avec Tom Cruise. Mais nous allons commencer avec Captain Fantastic de Matt Ross avec l'immense Viggo Mortensen.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Nos enfants seront des philosophes rois. Et cela me procure un bonheur indescriptible.
Voilà un film qui ne laisse pas indifférent. Alors on entend ceux qui le considèrent comme une belle réussite, venant appuyer le prix de la mise en scène qu'il a obtenu cette année à Cannes dans la compétition Un certain regard. D'autres, eh bien, le voient davantage comme un film clinquant, manquant son sujet. Quoi qu'il en soit, on peut reconnaître à Captain Fantastic, de l'ex-acteur Matt Ross, une certaine habileté, celle de s'engouffrer dans une thématique qui n'est pas tant traitée par le cinéma, l'éducation des enfants. Alors c'est sur le ton de la fable politique que le réalisateur est également scénariste, s'empare de la question. Captain Fantastic commence étrangement. Une biche est chassée par un jeune homme au corps maculé de noir. Son geste est célébré par toute la tribu de frères et de sœurs et par le père. Et contre toute apparence, eh bien, nous ne sommes pas dans une contrée lointaine de l'Amérique du Sud, mais dans le Nord-Ouest américain. Et ses enfants, âgés de 6 à 18 ans, eh bien, n'ont rien de bon sauvage. On voit très vite qu'ils maîtrisent pour certains eh bien, la théorie des cordes, Dostoïevski ou les concepts d'économie politique. Ben, le père de ses 6 enfants, eh bien les guides selon des principes forts, la connaissance, les langues, mieux vaut en parler 6 qu'une seule. Si tu connais pas le mandarin à 8 ans, eh bien c'est que tu as raté ta vie. Et puis, eh bien, il est question aussi de la critique du monde capitaliste, mais on les soigne aussi avec le corps. Hein. C'est une discipline militaire qui contraint ses enfants à effectuer des pompes, s'initier à l'escalade ou au combat rapproché, et ça peut faire très mal. Alors, mis à part quelques tensions venant du cadet des fils, mais assez vite absorbé par le groupe, eh bien, tout semble aller pour le mieux pour cette famille, si ce n'était l'absence de la mère. La maladie l'a éloigné du groupe et sa mort va évidemment bouleverser tout le monde. Alors, de la fable politique à la fresque familiale, nous passons au road movie, quand la meute, eh bien, la meute savante décide, à bord d'un bus nommé Steve, d'aller à l'enterrement qui se déroule alors très au sud des États-Unis, dans le Nouveau-Mexique. Et ce, malgré l'interdiction, eh bien, du beau-père qui refuse à Ben et les siens le droit de rendre hommage une dernière fois à celle bien qui a disparu. Alors il y a des gros différends entre Ben qui vit avec ses enfants dans la forêt et son beau-père qui loge dans une grande maison en bordure d'un golfe. Le trait est gros, le beau-père incarne la vision réactionnaire, ultralibérale et bigote d'une Amérique triomphante et méprisante. C'est peut-être là où Captain Fantastic échoue. Les cartes sont battues d'avance avec ce personnage monolithique sans nuance.
Même s'ils survivent à tout ce que tu leur fais subir, ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde réel.
Figurez-vous que moi, je pense exactement le contraire.
C'est de la maltraitance.
Vous avez failli me toucher.
Si j'avais voulu te toucher, je t'aurais touché.
Bonjour, grand-père.
Abby et moi, nous avons décidé de demander la garde des enfants.
On perçoit bien le nœud du problème hein, derrière le conflit entre le beau-père et Ben. La société libérale, patriarcale et normée se refuse à laisser des enfants à l'écart. À l'écart, ils ne consomment pas, ils s'autodéterminent, ils sont subversifs et peuvent délibérément fêter l'anniversaire de Noam Chomsky à la place du Père Noël. Tout ça est visible et contribue à rendre Capitaine Fantastic savoureux. Matt Ross a suffisamment bien écrit ses dialogues pour que le spectateur navigue entre réflexion, rire, sourire, révolte ou émotion. Le passage de la famille de Ben chez sa sœur avec ses deux fils nourris à la console de jeux vidéo eh bien, ravira tous les technophobes et met en question eh bien, l'éducation trop souvent remise dans les mains de l'éducation nationale justement et qui n'en finit pas d'accueillir l'éducation nationale des enfants ni forcément très vaillants, dégourdis, intelligents et sages sans être résignés. Et là, eh bien, il s'agit du portrait des enfants de Ben. Alors, fresque familiale, pétillante, réflexion sur l'éducation à grand renfort de Platon et de Chomsky, vision désenchantée et morale d'une Amérique arrogante et petite pointe nostalgique sur les années 70 où le monde semblait davantage mis en question, et bien malgré ses grosses ficelles, Captain Fantastic réunit tous les ingrédients pour être aimable, y compris cinématographiquement avec une lumière très colorée faite par le chef-op de Jacques Audiard. Et il y a des enfants trop mignons et puis un Viggo Mortensen. Alors là, pour le coup, très impressionnant. Moi, je trouve que c'est un des grands acteurs que compte le cinéma mondial. Et là, eh bien, il s'en sort merveilleusement bien. Captain Fantastic est donc un film qui est sur les écrans déjà depuis une bonne semaine. Et alors, il est question hein, dans les choix musicaux des enfants, quand on leur demande ce qu'ils aiment, il y a les variations Goldberg de Bach et notamment la version de Glenn Gould qui revient, mais on ne l'entend jamais. C'est l'occasion. Voilà, Captain Fantastic, c'est à voir au cinéma. Et nous allons passer maintenant eh bien, à un film français, celui des Dardennes.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et oui, à la fille inconnue hein, qui, comme d'habitude chez les Dardennes, ne comporte absolument aucun morceau musical. Enfin, c'est un peu une sorte de marque de fabrique.
C'est raide.
C'est un peu raide, voilà. Promu un bel avenir, hein, le docteur Jenny n'a pas répondu un soir à la sonnette. Le cabinet de médecin est enfermée depuis une heure. Elle invective à ce propos son stagiaire, un peu déboussolé. Elle tente de le convaincre que si on veut devenir médecin, bah, il faut garder la bonne distance avec les malades, celle qui fait que l'on peut tenir dans ce métier. Une attitude qui n'a rien de surprenant si on travaille dans le secteur médical ou social, mais qui semble choquer de façon, on dirait dire, bienveillante les Dardennes, qui décident par un tour de force scénaristique de changer la donne. Alors le lendemain, deux inspecteurs se rendent au cabinet pour annoncer à Jenny le décès d'une jeune femme noire qui serait passée dans le quartier. Et oui, comme vous vous en doutiez, c'est bien la personne qui a sonné la veille. Dès lors, bouleversée, Jenny, par un sentiment de culpabilité accrue, décide de mener sa propre enquête pour retrouver le nom de la défunte. Alors on voit bien d'un point de vue métaphorique ce qui intéresse les cinéastes, surtout à notre époque, entre intervenir, être un citoyen aveugle ou au contraire résister et aider les autres, tout l'enjeu serait d'ouvrir ou de fermer la porte. Alors l'idée est passionnante, mais reste quand même un peu culpabilisateur.
On ouvre pas, on a déjà dépassé d'une heure.
Oui, excusez-moi, je devais... Ah d'accord, oui très bien. J'en ai encore pour un quart d'heure. Parfait. Je me réjouis. Très bien. À tout à l'heure.
Quelqu'un qui sonne une heure après la fermeture, c'est quelqu'un qui se fiche de notre fatigue.
C'était peut-être une urgence?
Si c'était une urgence, la personne aurait sonné une deuxième fois. C'est la même chose qu'avec tes émotions. Tu dois pas laisser les patients t'imposer une fatigue qui t'empêche de faire un bon diagnostic.
Alors le programme des Dardennes est assez prosaïque au fond, hein, d'écrire le chemin de croix d'un jeune médecin de campagne ou de village à la bonté presque idyllique. Alors figure, on va dire, un peu christique, hein, elle symbolise l'humanité dans ce qu'elle a de plus formidable, obstinée, généreuse. La question que le spectateur est en droit de se poser est la suivante. Alors réagit-elle en réaction à son attitude d'indifférence ou de professionnalisme? Au fond, c'est un peu la même chose pour les cinéastes. Ou de ce sentiment honteux de ne pas avoir pu empêcher la mort d'une personne? Ou alors est-ce déjà une sainte qui, juste par réaction et posture devant son stagiaire, a joué donc le rôle du médecin distancié? Alors peu importe, car sur ce plan, nous n'aurons pas vraiment de réponse. C'est sans doute un peu des deux. Le docteur Jenny est une combattante qui se démène jour et nuit pour ses idéaux et ne compte pas son temps, quitte à ne pas avoir de vie sociale. Elle est présente sur tous les fronts. Ce qui interpelle quant à la véracité des faits, hein, un manque de réalisme saute un peu aux yeux. Il est étonnant qu'un médecin, même le plus enclin à l'empathie vis-à-vis de ses patients, réponde à tous les appels, toutes les nuits, hors consultation, en trouvant cela parfaitement normal. À moins d'être d'astreinte, on ne voit pas comme ça son médecin. Alors passons sur ce détail hein, qui décrédibilise parfois la fille inconnue. Film qui paraîtrait bien faiblard si la sécheresse et l'efficacité de la mise en scène, un peu comme dans une série B, ne rehaussaient l'ensemble. Mais la puissance d'incarnation de leur meilleur film, la crédibilité des personnages et des sujets traités laisse place ici à un récit un peu artificiel qui trouve en fin de parcours, je trouve, une résolution mécanique un peu digne d'un téléfilm. Alors pourtant, mine de rien, ils tentaient, les frères Dardenne l'a tenté quelque chose de différent, mais qui tombe un peu à plat. Jusqu'ici, ils adoptaient le point de vue du prolo, du pauvre, du faible. Ici, le personnage principal est finalement une femme équilibrée, appartenant, on va dire, à petite bourgeoisie, hein, enfin une figure oui, presque...
Qui reçoit quand même plutôt des prolétaires, là, pour le coup.
Ah oui, non, mais on passe de l'autre côté, en fait. Ouais. C'est le point de vue qui change. Hein. C'est elle qui regarde et aide la misère, telle une mère Teresa. Alors, au lieu de redonner une vitalité à leur cinéma, en changeant de point de vue, bah, les frères Dardenne servent, je trouve, une soupe à l'idéologie plus consensuel par un discours social chrétien hein, qui souhaite un peu la bonne conscience. Alors, révélateur de talents même exceptionnels, et Dardenne, là, ne tente plus rien aussi de ce côté-là. Après Cotillard, dans Deux jours de nuit, ils engagent une valeur montante du cinéma, en fait, à Delanel, et donnent les seconds rôles conséquents à leurs fidèles acteurs, comme Jérémy Régnier ou Olivier Gourmet.
Qui fait une colère, donc c'est ce qu'on attend de
oui,
Gourmet.
Oui, mais c'est une bonne colère, c'est un bon numéro de comédien, mais c'est pas très surprenant, finalement. Non. Alors, jusqu'ici, les Dardenne ont été à leur début pour moi des cinéastes exceptionnels avec La Promesse et Rosetta. Et surtout, ça n'engage que moi, hein, Le Fils est même pour moi un chef-d'œuvre, un thriller social tendu, construit comme un film d'action où les partis pris de mise en scène, hein, la caméra toujours proche de la nuque, étaient au service d'un propos bouleversant. Voilà, La Fille Inconnue, pour moi, déroule son programme avec une implacable logique, un peu de donneur de leçons. Alors, je suis un peu triste de voir un cinéma humain et généreux se détériorer comme ça, un peu de façon spectaculaire, de film en film, hein, et de se retrouver aujourd'hui avec une œuvre, je trouve, un peu moraliste et bien pensante, même si, je le répète, je trouve que la mise en scène est très réussie et très efficace.
Et toujours caméra épaule, effectivement, pour les Dardenne.
Un peu moins hein, dans celui-là. C'est quand même plus... Il y a un découpage plus classique que Le Fils, par exemple.
Et c'est pas du tout le cas, la caméra épaule de Nicole Garcia, que nous allons entendre dans cette partie de Cinérama consacrée à l'interview.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Nicole Garcia qui sort le 19 octobre Mal de Pierre. Nous sommes dans les années 50 avec Gabrielle, Marion Cotillard, vivant en Provence avec sa sœur et sa mère et qui tient une exploitation agricole. Alors dans cette région où il n'y a personne, eh bien Gabrielle vit son adolescence avec une fièvre au corps et la soif de passion en quête de ce qu'elle nomme la chose principale et est presque prise pour folle. C'est alors que sa mère décide pour calmer ses ardeurs eh bien de la marier à un saisonnier espagnol. Gabrielle accepte mais promet de ne jamais ni l'aimer ni non plus coucher avec lui. Ce que l'homme accepte. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mélodrame avance jusqu'en Suisse où Gabrielle va rejoindre un centre de thalasso pour soigner un mal mystérieux, le fameux mal de pierre. Là-bas, elle y rencontre un jeune lieutenant blessé, un certain Sauvage qui a mal vécu l'Indochine. Eh bien, c'est pour lui qu'elle brûle. Elle se jure qu'ils partiront ensemble. Voilà. Mélodrame, histoire d'amour, passion. Nous écoutons Nicole Garcia qui évoque le rôle de Gabrielle qui trouve un moyen de se sauver elle-même et puis qui parle de ces trois personnages en guerre, le passionné, le mari et l'amant blessé.
Je pense que, comme on peut tous le faire dans nos vies, enfin, c'est comme pour ne pas s'effondrer, il y a l'imagination.
Nous serons nés. Je m'allougerai sur vous. Vous entrerez en moi.
Qu'est-ce que vous avez à me regarder là ?
Cette femme, qu'on peut dire folle, c'est comme ça qu'on désignait les choses dans les années 50, qu'on met au bord de la société, qui est scandaleuse, qui a deux doigts d'être internée, et qui va quand même réussir à trouver voilà, le chemin de ce qu'elle attend et se sauver. Elle se sauve toute seule. Elle se sauve toute seule. Et puis après est arrivé quand même celui dont on... Mais ça, c'est un peu l'inconscient quand on écrit, celui qui arrive à la protéger, quoi. L'homme avec l'amour qu'on peut tous rêver. Non, mais avec cet amour inconditionnel qui l'aime même quand elle a un autre amour comme... un autre amour comme objet.
Gabrielle ! Vous l'avez rencontrée, ma fille aînée.
Oui. Elle est belle.
Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie.
Vous voulez vous marier avec moi ? Vous êtes fou. Je vous aimerai jamais.
Mais ils sont des personnages en guerre, quoi. Lui, l'Espagnol, José, il vient de la guerre d'Espagne. Il rentre en exil de la guerre d'Espagne. Le personnage d'André Sauvage, il revient d'une guerre, une guerre de notre histoire, enfin une guerre coloniale. Ouais. Donc, ils parlent tous les deux de la guerre, et elle, au milieu, elle parle d'une autre guerre, la guerre qu'il y a en elle, quoi, cette lutte contre ce désir qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que je pense que l'histoire est une histoire d'amour est assez universelle. C'est un peu comme une sorte de... C'est autant n'importe le vent. Quoi. C'est comme quelque chose d'amour et de guerre.
Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Tu n'as pas encore répondu à mes lettres. Qu'est-ce que je t'ai fait ?
Je veux qu'on parle. Qu'est-ce que je peux faire ?
Voilà, c'était Marion Cotillard qu'on entend. Une solide interprétation quand même de Marion Cotillard. On peut dire que le film repose nettement sur elle. Et d'ailleurs, Nicole Garcia ne voulait tourner qu'avec elle. Si on a le temps, à la fin de l'émission, on écoutera ce qu'elle pense de cette actrice qu'elle attendait après ses tournages américains. Voilà, on voit Marion Cotillard à trois âges de la vie, l'adolescence. Ensuite, on la voit bien plus tard. Et puis, il y a le flashback qui compose quasiment l'essentiel du film. Voilà, c'est un film, un mélodrame. Mais je dirais que Marion Cotillard, en termes de mélodrame, si
Elle pleure tout le temps.
Ouais, elle pleure tout le temps, mais elle est bien meilleure dans le James Gray de Immigrant. Voilà, qui reste un grand souvenir, mais bon, c'est quand même une grande actrice. Le Mal de Pierre sort ce 19 octobre.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Alors, le cinéma catastrophe est certainement un des genres les plus codifiés qui soient, et pour ma part un peu ronflant, où la marge de manœuvre du réalisateur ou exécutant est des plus limitées. Alors, ce type de production formatée est structurée selon une nomenclature très rigide. Les personnages stéréotypés obéissent à des fonctions très identifiables, qui peut aller du gentil ouvrier, bon père de famille, au méchant de service qui incarne le pouvoir, en passant par la figure du prêtre ou du gosse égaré, heureusement absent dans ce Deepwater en l'occurrence. Alors ensuite, le récit souvent plombé par une exposition pseudo-scientifique ou technique, avec des dialogues employant un jargon imbitable. Là, généralement on patiente, en connaissance de cause, attendant calmement le pourquoi de notre présence dans la salle, soit la deuxième partie spectaculaire à coup d'effets spéciaux et de délires pyrotechniques. Alors, Deepwater ne déroge pas à la règle, ne révolutionne en rien le cinéma, mais déjoue certaines craintes et contourne habilement les clichés les plus éculés, tout en les intégrant dans le déroulement de l'histoire.
Mon père s'appelle Mike. Il travaille sur une plateforme de forage qui pompe le pétrole sous l'océan.
On est des explorateurs.
Comme Dora.
On est une grosse compagnie, mais on a 50 jours de retard.
Ce pétrole, c'est un monstre. Comme les méchants dinosaures, tout ce pétrole a été vivant.
Je m'inquiète pour ma plateforme. Mon équipage vit dessus. Vous la louez.
Pendant 300 millions d'années, ces vieux dinosaures ont été compressés encore et encore, et papa et ses amis font un trou dans leur toit. Les méchants dinosaures n'arrivent pas à le croire. Liberté ! Alors ils foncent dans le trou.
Le film s'inspire d'un fait réel, soit la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire, la plateforme Deepwater Horizon, tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents dans les profondeurs du golfe du Mexique. Alors Mike Williams, interprété par Mark Wahlberg, électricien, est envoyé sur la plateforme afin de vérifier, entre autres, les normes de sécurité. Il fait confiance à son patron, qui est interprété par l'excellent Kurt Russell, qui pense que cette plateforme n'est pas fiable. Mais quand une société dirigée par un affreux capitaliste n'en fait qu'à sa tête pour vouloir la déplacer, la faille tant redoutée va devenir explosive. Bon, je dois avouer que la première partie m'a semblé affreusement ésotérique et comme je le signalais plus haut, le jargon technique m'a littéralement anesthésié. Mais si on fait l'effort de faire abstraction sur cet inconvénient, force est de reconnaître que Deepwater est une excellente surprise qui dépasse le simple spectacle pyrotechnique des cérébrés. Alors Peter Berg signe un divertissement crédible et prenant, réalisé avec une réelle efficacité. Il s'impose comme un artisan honnête après Hancock et Le Royaume. Il est d'ailleurs étrange que certains critiques rapprochent son cinéma de celui de Michael Bay, alors que Deepwater est presque l'antithèse d'une baudruche comme Armageddon. À la boursouflure antipathique du Bay, Autant sur le plan formel qu'idéologique, Peter Berg adopte l'esprit d'une certaine idée de la série B, tant au niveau du traitement des personnages que de l'image. Alors en seulement 1h47, je trouve que c'est une durée assez ramassée pour un blockbuster, il nous gratifie d'un bon film catastrophe sous-tendu par un discours social sympathique et une absence d'héroïsation des personnages. Ils sont filmés comme des hommes qui sont juste là pour s'en sortir, et le seul méchant du film, incarnation d'une forme de capitalisme décadent et méprisant, est interprété avec beaucoup de jubilation par John Malkovich. Voilà, je conseillerais, c'est un bon film du dimanche soir.
À noter que dans cette affaire, alors on peut aimer les clés de 28, et donc si on aime les clés de 28, à mon avis, c'est les gros boulons.
Ah, les gros boulons.
On peut apprécier le film. À noter quand même, tu parles du capitalisme triomphant, et cette affaire quand même avec Shell a été très méprisant suite à cette catastrophe.
Oui.
Ça a été un gros problème.
Et c'est plutôt plaisant de voir un film qui a un fond social comme ça, dans une grosse machinerie hollywoodienne qui est assez claire. Peut-être un peu simpliste, mais au moins, les choses sont dites.
Eh bien, il n'y a pas trop de dimension sociale dans Jacques Richer, dont nous allons parler maintenant.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapables de nous tromper.
Alors, peut-on faire mieux avec un deuxième opus? On peut répondre oui pour le Batman de Christopher Nolan, par exemple. On peut dire oui pour Terminator ou encore Star Wars, pour peu qu'on soit un inconditionnel de l'Empire contre-attaque. Alors, si on cherche dans le cinéma français, eh bien, on tombe plus dans les Camping 2, La Boum, La Vérité si je mens 2, Taxi 2. Et c'est tout de suite moins flagrant.
Brice 3, Brice alors 3, que 2 n'existe pas.
Et oui, voilà. mais gardons ça en tête, c'est donc possible de faire aussi bien, voire mieux, avec une suite. Alors on a de quoi se réjouir si on pense à Jack Reacher, puisque 4 ans après le premier volet de l'histoire de cet ex-major appartenant à la police militaire américaine, eh bien une nouvelle aventure nous est proposée. Jack Reacher, Never Go Back. Le premier volet, que je n'ai pas vu, et je ne me suis pas imposé de rattrapage, convoquait un casting bien garni avec Rosamund Pike, Robert Duvall, Werner Herzog et l'incontournable Tom Cruise, également producteur. Le film a bien marché dans les salles et a eu un vrai succès critique.
Il y a deux choses qui vont se passer.
Bon, pardon ?
D'abord, le téléphone qui est là va sonner. Ensuite, ces menottes seront à vos poignets.
Et que voulez-vous qu'il arrive après ce coup de téléphone? Eh bien oui, les menottes sont effectivement au poignet des vilains shérifs. Cette scène d'introduction servie par la bande-annonce permet sans mal de prévenir le spectateur des événements prévisibles dans ce Jack Reacher. Il va y en avoir, c'est même la règle. Il s'agit de ne pas embrouiller le dit spectateur.
Jack Reacher pour le Major Turner.
Le Major Turner a été arrêté.
On l'accuse de quoi?
D'espionnage.
C'est un coup monté.
Alors, pour la faire court, comme Jack le dit, c'est un coup monté par des paramilitaires sur fond de trafic d'armes en Afghanistan. Mais on ne lui fait pas au loup solitaire, d'autant qu'on le prive de sa rencontre avec Suzanne Turner, une jeune militaire qui a pris sa suite. Alors, devenue captive, il n'a qu'une envie, c'est la libérer et prouver son innocence. Alors, on est en plein dans les codes du film de Vigilante. Jack va pratiquer la justice expéditive et sans passer par la case tribunal et avocat, une procédure bien trop complexe. Il y a urgence à agir et ce qui doit être fait va l'être.
Vous vous croyez au-dessus de la loi? Mais je suis pas la loi. Alors vous devriez vous mettre à courir parce que je vais me mettre en chasse. Et quand je vous trouverai, je vous tuerai tous.
Voilà, on perçoit bien l'ambiance. Tom Cruise prend le rôle d'un justicier à la Chuck Norris, accro au pétage de gueule, oignon, à la dérouillée, tout ce qui fait mal et de préférence à main nue, mais pas toujours. Alors l'homme est donc un solitaire, mais avec deux femmes dans les pattes. Certes, une femme militaire qui va lui donner la réplique quand il va verser dans ses penchants machos, mais on lui colle également une adolescente imprévisible qui va être l'objet alors... En revanche, d'une écriture scénaristique bien prévisible. C'est peut-être l'un des gros défauts du film, qui n'a pas beaucoup d'ambition, et en nous racontant donc une histoire sur laquelle on a déjà une longueur d'avance. Le scénario est très convenu, tout comme la réalisation, l'ambiance, l'image, jusqu'aux coiffures dont il est fait mention dans une séquence. Eh bien, tout semble nous renvoyer au film des années 80, où les justiciers garnissaient les écrans du samedi soir. Alors évidemment, Jack Reacher n'est jamais vraiment premier degré, mais jamais vraiment drôle non plus, même si l'ensemble avance en toute décontraction et reste bien tenu. Approchant des deux heures quand même, Jack Reacher Never Go Back devient vers la fin un peu poussif, d'autant qu'il faut dire au revoir à tous les personnages qui sont restés vivants, vu que Reacher en solitaire indécrottable, eh bien, ne peut rien construire avec personne. Donc voilà, on sait qui va. Voilà, ça c'est.
Et puis il faut bien préparer un troisième épisode.
En plus, voilà. Donc, pour revenir aux suites qu'on retient, eh bien, il suffit de penser à The Dark Knight Rises, le Batman 3 de Nolan, où Tom Hardy incarne un méchant masqué du nom de Bane. Eh bien, il a une vraie épaisseur, un passé, une histoire, on serait capable d'empathie. Eh bien ici, rien, le méchant n'est qu'une machine à tuer que Jack Reacher a envie de pulvériser. Voilà. Edward Zwick a, semble-t-il, eu moins de talent que son prédécesseur, Christopher McQuarrie, qui fut le réalisateur et scénariste du premier volet des Aventures du Major.
J'aime pas qu'on me suive. Et si je t'arrache le bras pour te massacrer avec?
C'est moi qui me fais des idées ou ça a l'air de vous réjouir?
Voilà, Tom Cruise hein, tourne très peu, hein. Il se concentre d'ailleurs sur les suites hein, parce que bientôt va sortir Mission Impossible 6 et puis va arriver Edge of Tomorrow 2 en 2018. Edge of Tomorrow qui est, cela dit, un très très bon film. J'espère que la suite sera aussi bonne.
On dirait vraiment une bande-annonce d'un film avec Steven Seagal ou oui. Certains Schwarzy comme Le Contrat ou des films comme ça.
Années 80-90, on est à fond là-dedans. On va terminer avec le cinéma français.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Panorama non exhaustif et subjectif de l'histoire du cinéma français. Voyage à travers le cinéma français, justement. Le documentaire Fleuve de Tavernier touche par son ancrage personnel et ses choix assumés. Tavernier commence curieusement, mais c'est plutôt malin de sa part, par assimiler sa vision cinéphilique à celle de Godard. Ainsi, il balaie d'un revers de la main les critiques faciles, comme quoi l'auteur de Coup de torchon serait un conservateur, hostile à la nouvelle vague, autant en tant que cinéaste qu'en tant que spectateur passionné. Donc il cite cette phrase de Godard, dont on ne peut pas douter de la véracité. Il y a quelque chose qui nous unit, Bertrand et moi, c'est que nous sommes tous deux les enfants de la Libération et de la Cinémathèque. Bon, en même temps, c'est bien du Godard, c'est assez vague comme citation. Mais bon, pourquoi Godard? Déjà parce qu'il incarne à lui seul la figure contestée d'une certaine idée de la modernité du cinéma français. Ensuite, parce que le réalisateur d'About Souf est lui-même l'auteur d'un documentaire magnifique, mais abscon sur le sujet, les fameuses histoires du cinéma. Passé cette introduction gentiment provocatrice, Tavernier peut légitimement raconter ce qu'il veut, de partir de ses souvenirs et de nous transporter durant 3h15 dans un univers où se mêlent habilement les affects, les impression, la nostalgie, bref, tout ce qui relève du sensible et, à côté, la part d'analyse très pédagogique, mais souvent passionnante. Il évoque son enfance en internat, ses premiers émois cinématographiques, ses rencontres avec ses maîtres en tant qu'attaché de presse, puis en tant qu'assistant réalisateur, notamment de Melville.
Gabin est indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui à l'époque ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français.
Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas.
Moi, ce que j'aide bien, c'est mon gauche.
Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche deux personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire.
Alors, fin orateur, hein, Tavernier concentre ses choix sur des auteurs ultra reconnus et indéboulonnables, hein, comme Jacques Becker et Jean Renoir, avec des extraits à la pluie et des réflexions souvent très intéressantes. Par exemple, il évoque le goût de Renoir pour la profondeur de champ, qui serait une réaction à la conception de la peinture de son père. Il décrypte intelligemment le rythme haletant des mises en scène de Jacques Becker, j'allais dire Jack Becker. Intelligemment, à côté de ces cinéastes de renom, il revient sur des figures plus controversées comme Jean-Pierre Melville, avec qui, en dépit de toute l'admiration portée, il n'est pas toujours tendre, ou encore des auteurs plus consensuels mais sous-estimés comme Claude Sautet. Alors il incite peut-être un peu trop sur le génie de Jean Gabin, même lorsqu'il s'agit de passer des extraits de, je ne vais pas dire de sombres navets, mais de films quand même pas très intéressants en fin de carrière. Mais il y a une vraie liberté de ton dans la manière de conduire le documentaire. Hein, Tavernier intervient tout le temps, se permet de mettre l'accent sur les compositeurs de films et surtout de réhabiliter la série B française, notamment ces petits polars ironiques et toniques interprétés par Eddie Constantine. Il jouait le rôle, je crois, que c'était Lémy Cochion. Voilà. Et réalisé par des cinéastes de talent comme John Berry ou Jean Sacha. Il évoque aussi un auteur plus secret, hein, le rebelle Edmond Gréville, le premier en 1939 à s'alarmer de la montée du nazisme avec menace. D'ailleurs, tous les acteurs et techniciens sur ce film ont été mis à l'écart de l'industrie cinématographique ensuite. Alors Tavernier, hein, de la même manière qu'il le fait pour le cinéma américain, puisqu'il est auteur d'un ouvrage de référence en deux parties, hein, il fait preuve d'un éclectisme et d'un esprit démocratique très plaisant. Alors non pas que tout se vaut, mais que la richesse du cinéma français est liée à sa variété et aussi à sa différence avec le cinéma hollywoodien. On pensait qu'il n'aimait pas trop le cinéma français, qu'il était surtout attaché à un type de cinéma. Et bien là, on s'aperçoit que non, qu'il a une très grande connaissance, c'était vraiment un érudit. Alors aussi bien les petites productions fauchées, voyez, hein, elle côtoie les œuvres de la Nouvelle Vague en passant par le classicisme d'un Marcel Carnet. Alors, peu apprécié d'ailleurs à l'époque par ses collaborateurs, hein, dans une interview d'époque, Henri Janson, scénariste d'Hôtel du Nord, il s'exprime à ce sujet et dit avec un certain mépris quand même que Marcel Carnet est une des inventions de Jacques Prévert. C'est pas très, c'est pas très glorieux, mais bon.
Pour le réalisateur, effectivement.
Et à ceux qui penseraient à juste titre que les oublis sont légion, alors ça, on y pense tout au long de la projection du film, attendez d'arriver jusqu'à la fin où il semble qu'une suite est en préparation. Donc les fans de Clouzot, Tati, Eustache, René, Frangeux et tant d'autres, eh bien, patientez. Alors voilà, Voyage à travers le cinéma français s'adresse aussi bien aux cinéphiles, je dirais, aux nostalgiques d'une époque et enfin à tous les curieux qui aimerait en apprendre davantage sur l'histoire du cinéma.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, nous aurons encore une interview. Alors, cette fois-ci pour un documentaire, c'est celui de Nina Faure et de Pierre Carl, Opération Coréa. Et puis, eh bien, il y aura toujours des chroniques, mais tu ne seras pas là, Manu.
Eh non, je ne serai pas là.